A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Ça veut dire quoi, pays en nous ? Est-ce que Jessica Oublié, cette jolie métropolitaine, le sait depuis toujours ou depuis peu ? Café Tidoudou en moué, comment tu vas ma chérie ? C'est la question que toute la famille guadeloupéenne et martiniquaise lui pose quand elle arrive avec son 38 tonnes de questions sur l'histoire des migrations d'outre-mer liées au Bumidome dans les années 60, 70, 80. Il y a de la journaliste en elle, la revue Africulture s'en souvient, mais il y a aussi de l'amoureuse de l'art. Des études en histoire de l'art, ça fait quoi ? Ça fait des bulles aujourd'hui. J'ai devant moi ce roman graphique documentaire intitulé « Pays en nous » sur un scénario de notre invitée Jessica Oublié, avec des dessins de Marie-Ange Rousseau, c'est pour les grands et les petits, aux éditions Stankis. Bonjour Jessica Oublié.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Est-ce que cette enquête que vous avez menée pour raconter votre famille et qui a produit cette BD vous a transformée ?
Ah oui, entièrement, entièrement. Même si initialement je ne me suis pas lancée dans ce projet comme dans une quête des origines, j'ai très vite compris que je ne savais pas grand-chose de là où je venais et qu'il y avait beaucoup à apprendre et que ce qui me concernait de manière très singulière concernait également la société antillaise dans sa totalité. Et donc, c'est plus une histoire sur moi, mais surtout sur les départements d'outre-mer et leurs relations avec la métropole aujourd'hui que j'ai découverte et que j'ai en commençant à écrire Pays en nous.
Est-ce que vous êtes prête pour une petite enquête en sol majeur sur vos terres ?
Oui.
Weet jy van jou voorouers?
Que savez-vous de vos ancêtres?
J'ai pu monter mon arbre généalogique jusqu'en 1848, ce qui est pas mal, en allant donc aux archives départementales de Gourbert. Mais les archives, elles disent des noms, elles permettent de voir des croisements, de voir des unions. Elles disent pas le récit, la vie, les trajectoires des gens. En revanche, ça m'a quand même permis de me réinscrire dans une généalogie et de mieux savoir donc d'où venaient mes grands-parents.
Alors justement, Vous avez eu envie un jour de les caler dans un fauteuil, ses grands-parents, et de les interroger. Voilà pour en sol majeur un court extrait d'une longue conversation que vous avez eue avec Paul, votre papy, sur ce fameux Bumidome, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Et cette conversation se passe au Gosier, en Guadeloupe.
On reprend les entretiens. Est-ce que tu as connu des gens qui sont partis avec le Bumidome ? Avant que tu ne partes, toi, en 74, est-ce que tu avais vu des gens qui partaient en France avec le Bumidome ?
Je sais que ça existait, le Bumidome. Mais quand tu as dit, où je me souviens les noms des gens qui sont partis, non ?
Non, même si tu ne te souviens pas de leur nom, mais à l'époque, tu voyais des gens partir avec le Bumidome ?
Si.
Tu avais des gens de tes connaissances, des amis ?
Ça remonte haut, hein.
Difficile hein, d'interviewer soi-même son papy, Jessica Oublié. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le désir, l'idée d'interviewer vos grands-parents ?
Réellement, la maladie de mon grand-père. Après mes 5 années sur le continent africain, donc j'étais coopérante en Centrafrique et au Bénin. Quand je suis rentrée, j'ai découvert la maladie de mon grand-père et je me suis aperçue que je connaissais absolument rien de lui et de la raison pour laquelle, du coup, ma mère l'avait suivi ici et donc de la raison pour laquelle j'étais née ici. À ce moment-là, je décide de partir en Guadeloupe avec un enregistreur et de collecter son récit de vie. Mais quand je commence ce travail en septembre 2015, je ne m'attends absolument pas à ce que je vais découvrir. Pour moi, j'utilise le huis clos de nos entretiens pour me rapprocher de lui. C'est une manière aussi de pouvoir ramener de la temporalité physique entre nous, plus que mémorielle même. Et puis finalement, quand je lâche ce mot Bumidome, je découvre une réaction très spontanée, limite épidermique, à travers laquelle il me fait comprendre que lui n'est pas parti avec le Bumidome, qu'il a payé son billet d'avion tout seul. Et puis, quelques jours après, à l'occasion d'un déjeuner de famille, ce mot ressort, mais comme un objet, une espèce d'objet monstrueux, douloureux.
Donc vous, la petite métro, comme vous appelle papy, Jessica Oublié, vous décidez d'écrire véritablement l'histoire familiale Avec un papy pas très causant, c'est pas évident. Donc, vous commencez votre enquête au bras de la dessinatrice Marie-Ange Rousseau. Vous enquêtez sur le fonctionnement étatique de ce Bumidom. Et vous plongez finalement dans l'histoire de ces Français venus d'outre-mer, ces citoyens à part entière ou entièrement à part.
Mon Dieu, comme vous êtes Français!
La Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner et ce sera une de vos tâches, mes enfants.
Comme douce France.
La voix du général en visite aux Antilles, donc dans les années 60, pour accueillir Pays en nous, notre pays, votre bande dessinée, Jessica Oublié, roman graphique et donc autobiographique, dont chacun des chapitres est introduit en créole par un proverbe. Tout manger bon pour manger, tout pas bon pour dire. Toute nourriture est bonne à manger, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors pourquoi vous avez mis ce proverbe créole en exergue de votre premier chapitre ?
C'était pour interroger la difficulté des anciens, notamment à raconter ce qui fut leur vie. Relativement, ce que j'ai constaté, c'est que les parents antillais sont très taiseux. Et donc, ma grand-mère, même si elle comprenait ma démarche, mon besoin de savoir, elle était assez réticente. Elle a mis beaucoup de temps à me parler, et c'était aussi le cas de mon grand-père. Mais c'est seulement quand ils ont vu Marie-Ange arriver, blanche, métropolitaine, venir se joindre à moi pour leur poser aussi des questions, qu'ils ont compris que j'étais sans doute engagée dans quelque chose d'assez sérieux.
Une question qui est tabou, hein, dans cette tablée familiale autour de laquelle on est invité tout de suite, dès les premières planches, hein, dans votre bande dessinée. On est chez votre oncle Wally, autour d'un bébélé, c'est quoi ?
C'est un plat antillais avec des pieds de porc, des ignames. En fait, c'était le plat du pauvre, même de l'esclave.
Et alors, autour de ce plat, les langues se délient un petit peu, mais on sent que c'est compliqué, cette histoire du Bumidom. On est là dans un regard critique, on sent que c'est un tabou familial.
Tout à fait, mais parce que les points de vue divergent complètement au sujet de la question de savoir est-ce qu'il fallait vraiment partir ? Est-ce que le développement ne pouvait pas se faire sur place ? Est-ce que réellement l'avenir était ailleurs ?
Alors, par quoi commencer pour raconter ce roman familial ? Peut-être par la lettre B comme Bumidom. Quel est cet organisme et quelle est sa vocation ?
Le Bumidom, c'est le Bureau pour le développement des migrations en provenance des départements d'outre-mer, créé en 63 à l'initiative de Michel Debré, à l'époque où il était donc Premier ministre. Et le but, c'est de faire venir de la main-d'œuvre des départements d'outre-mer en France métropolitaine pour participer à la reconstruction de l'économie du pays. Un certain nombre de postes sont à l'époque vacants dans l'administration publique, et notamment ceux des catégories C et D. Et se pose alors la question de trouver une main-d'œuvre citoyenne, donc qui détienne la citoyenneté française, pour occuper ces postes. On va la chercher dans les départements d'outre-mer, où il y a un taux de non-emploi extrêmement important. Et depuis quelques années surtout, de nombreuses grèves, des émeutes, des tensions sociales, colorées par un contexte de tensions raciales.
Alors pour planter ce décor des années 60-70, on vous suit dans cette enquête. Jessica Oublié, vous rencontrez historiens, chercheurs, sociologues qui repartent sur les traces et remontent loin, sur les traces de 1848, l'histoire de l'abolition de l'esclavage, jusqu'à 1946, cette fameuse loi de la départementalisation supposée apporter l'égalité des citoyens. Et peut-être que dans cette enquête, vous réentendez la voix en colère du maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, l'un des premiers déçus de cette départementalisation qui aurait dû, selon lui, lutter contre l'emprise béquée.
À l'heure où dans le monde entier, le processus de décolonisation s'achève, à la même heure, à la Martinique, un processus tout autre est commencé et va bon train, et c'est un processus de recolonisation. Et oui, Martiniquaises et Martiniquais, le processus est commencé. Regardez vos plages, regardez vos rues, regardez vos administrations, regardez les banques, regardez les grands magasins, regardez les grandes surfaces, regardez la préfecture. Parfois, c'est en vain que vous chercherez une tache de couleur, une tache sombre dans le paysage. Tout est blanc. Tout est blanc.
Aimé Césaire, sur RFI, une voix qui vous met sans doute la puce à l'oreille, Jessica Oublié, dans votre enquête sur le Bumidome, pour comprendre l'histoire des Antilles après la Seconde Guerre mondiale, après la départementalisation, l'histoire des mouvements anticolonialistes et des luttes pour les indépendances qui naissent en Martinique et en Guadeloupe et qui sont étouffées. Racontez-nous, comme vous le faites dans votre bande dessinée, l'histoire du gong.
Le gong, c'est le groupe des organisations nationales de Guadeloupe qui réunit un certain nombre de personnes, d'abord nationalistes, puis d'autres plutôt indépendantistes. Et le gong avait pour vocation de sensibiliser le peuple à sa conscience nationale, lui faire prendre conscience que le peuple guadeloupéen est avant tout un peuple guadeloupéen et pas français. Et donc l'État donc répressif avait dans son viseur toutes les activités du gong, et c'est notamment à partir de mai 67, des terribles événements de mai 67 à Pointe-à-Pitre, que l'histoire du gong éclate au visage de la Guadeloupe mais aussi de la France métropolitaine, puisque à ce moment-là, il y a une grève donc des ouvriers qui oppose des représentants du patronat, des représentants des syndicats. Des militants du gong sont dans la foule. S'échappe alors de la réunion une phrase: quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Et là, très rapidement, ils sont encerclés par les CRS. Des jeunes prennent des conques de lambi, donc ce gros coquillage au bord tranchant, qu'ils lancent au visage des CRS. Et un CRS a eu le malheur d'enlever son casque et donc d'avoir le visage balafré. À ce moment-là, les CRS ripostent en tirant sur la population sans sommation. Le premier tir touche qui ? Jacques Nestor, qui est un des militants du gong.
Alors, ce qu'on comprend, c'est que De Gaulle, lui, rêve toujours d'une grande France. Donc, c'est les pouvoirs successifs vont étouffer dans l'œuf toutes ces tentatives d'indépendance à travers le Bumidome, qui met la main sur des Antillais volontaires, entre guillemets, pour rejoindre l'Hexagone. Témoignage.
Je venais d'avoir 23 ans. J'ai dit, je m'en vais. On a pris le bateau le 12 mai. On a fait 12 jours sur le bateau. Moi, je pensais que le bateau allait arriver à Paris. Mais comme il n'y a pas de mer à Paris, vous savez, quand vous ne connaissez pas. Alors, on est arrivé à Cannes, et à de Cannes, on a pris le train pour venir à Paris. Il y avait deux monitrices qui sont venues pour nous accompagner, juste pour nous accompagner. Vous voyez, comme pas comme un berger qui amène ses moutons, parce qu'il faut bien que... Elle était devant, et puis je vous ai déposé le troupeau de moutons là, et puis maintenant débrouillez-vous. Et j'étais pas contente. Hein.
Le lendemain matin, on nous a dit voilà, vous allez commencer. On nous a appris à éplucher des pommes de terre. On nous a dit que vous allez apprendre à faire du ménage. Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas parcouru 7000 km pour venir faire du ménage.
On nous apprenait les bonnes manières, on va dire, pour être femme de ménage chez... À l'époque, c'était beaucoup de personnes du monde politique ou des gens qui avaient les moyens de s'offrir une bonne réunionnaise ou martiniquaise ou guadeloupéenne.
J'aurais payé... des fortunes pour repartir, parce que là, je voulais vraiment repartir. Sur le coup, là, je voulais repartir. Et puis, je me rendais compte que ce n'était pas possible, parce que le billet était... C'était qu'un aller simple. Il n'y avait pas d'aller-retour.
Extrait en sol majeur du documentaire Bumidome, l'histoire des Français d'outre-mer. En fait, ces Français des Antilles, recrutés par ce Bumidome, ces Français rejoignent la grande catégorie des immigrés, Jessica Oublié.
C'est là le cœur du propos de la bande dessinée. Est-ce que ces migrants étaient-ils soit seulement des migrants, des immigrés, des étrangers, alors qu'ils avaient la nationalité, la citoyenneté du pays dans lequel ils se rendaient, et que, comme on l'entendait tout à l'heure, lorsque De Gaulle part en visite officielle dans ces territoires, il leur dit, il leur scande au visage, que vous êtes français. Donc ces personnes-là découvrent une réalité qui n'est pas celle qu'ils ont appris à l'école, qui n'est pas celle qu'ils ont depuis leur territoire d'origine. En fait, ils se découvrent tout simplement noirs en arrivant en France. Et donc, oui, pour beaucoup, ils ont eu le sentiment de partager les conditions des travailleurs immigrés de la même époque. Ils vivaient dans des foyers Sonacotra pour beaucoup, dans des fameux hôtels où ils séjournaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis par ailleurs, ils occupaient des postes dont les Français métropolitains ne voulaient pas.
Alors que le Bumidome leur avait fait miroiter des formations.
Tout à fait. En fait, la plupart des femmes s'imaginaient qu'elles pourraient devenir infirmières, notamment enseignantes, exactement. Et donc, quand elles arrivent ici et qu'elles passent à travers le centre d'adaptation à la vie métropolitaine à Crouy-sur-Ourcq, donc déjà même pas à Paris, mais à la frontière de l'Aisne, dans le fin fond du 77, elles découvrent une autre France. Et puis surtout, en arrivant, on leur dit, voilà, vous déposez vos affaires et aujourd'hui, on va vous former au métier de la domesticité. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu.
En termes de chiffres, combien de Français d'outre-mer déplacés par le Bumidome ?
167 000. Par le Bumidome, mais ensuite le Bumidome a entraîné un mouvement de migration dit spontané.
Donc vous découvrez au cours de cette longue enquête de la part de l'État, de l'administration, de l'industrie, une exploitation outrancière de ces citoyens français, nés français, il faut le rappeler. Quelles sont les conséquences de cette politique ?
Alors aujourd'hui, notamment pour les Antilles, alors que le projet initial c'était le développement de ces territoires, au bout de 60 ans de politique migratoire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de développement. Et puis les nombreuses grèves de 2009 notamment, et puis les dernières en Guyane au début de l'année 2017 nous le rappellent. La conséquence directe en termes démographiques pour les Antilles, c'est un vieillissement de la population. Alors que dans les années 60, la plupart des gens, environ 60% de la population, avaient moins de 25 ans. Aujourd'hui, plus de 40% de la population en 2030 aura 60 ans et plus. C'est énorme. Ce sera avec la Guadeloupe et la Martinique seront les départements français les plus vieux. Alors en plus d'être vieillissante, comme chaque année 3000 à 4000 personnes quittent la Guadeloupe et la Martinique encore, alors que le Bumidome a cessé, mais qu'une autre agence est substituée au Bumidome, donc on l'appelle l'ADOM, elle est en charge de la mobilité des jeunes. Donc comme 3 à 4 000 personnes partent chaque année et que la natalité antillaise s'est déplacée, la population antillaise est en forte décroissance. Donc en 2050, on va retourner à la population de 1960. Ça ne se voit nulle part ailleurs.
Est-ce que pour feuilleter cette belle BD, on pourrait mettre un petit peu de super combo avec Muendomi Deo, Jessica Oubillé.
Muendomi Deo, Muendomi Deo.
Ce qui veut dire ?
J'ai dormi dehors, j'ai dormi dehors.
Pourquoi ce morceau ?
Parce que c'est un morceau que j'ai beaucoup entendu chez moi quand j'étais petite et je connaissais que le refrain. Et qu'en fait, en écrivant « Pays en nous », j'ai mieux compris ce que traversait la personne qui est partie parce qu'elle rêvait d'un avenir meilleur et qu'elle s'est retrouvée à dormir sous les ponts.
Moins payant bon voyage en avion. Moins vrai cinéma, moins manger, moins bien vrai, moins dormi, moins levé. Avant c'était français, moins t'es qu'à parler. Mais les moins arrivé à Paris. Moins dormi dehors, moins dormi dehors, moins dormi en allô. Moins dormi dehors, moins dormi en tout à métro. Non vient bilover. Ouais, vini si vraie misère. Ouais, t'es à ton sang belle lèvre, sa faute de fille qui mettait moins dehors. Ça qui plie belle encore. Moi j'ai fait cloche. Million situation folklorique. Moins dormi dehors, moins dormi dehors, moins dormi en dalo. Moins dormi dehors.
Même si vous dansez pas, super combo à le dernier mot, ça se passe en sol majeur avec Jessica Oublié, auteure d'une BD payée en nous. Pour les sous-titres, faut revenir dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Mmh. Elle s'appelle Jessica Oubliée et sa marmite de journaliste française est faite de manioc, de morue et d'avocat. Une marmite qui chante la Martinique et la Guadeloupe et passée peut-être à la moulinette de certains silences. Ce silence qui entoure la vie de sa famille, c'est-à-dire ces Antillais déportés par le Bumidom entre 1963 et 1980 dans l'Hexagone pour n'y être traités que comme des citoyens de seconde zone. Et cela donne une BD pédagogique, historique, autobiographique, très belle, intitulée « Pays en nous ». Alors, il faut quand même qu'on évoque une seconde votre nom, Oublié. Bah oui, franchement, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre patronyme ?
Non, je connais pas l'histoire de mon patronyme, mais j'ai une anecdote à ce sujet. En 2010, j'étais à Madagascar et il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui m'a violemment pris à partie quand je lui ai dit que je m'appelais Jessica Oubliée. Et il m'a demandé sérieusement, alors je lui ai dit oui, c'est mon nom. Et il m'a dit, c'est pas possible, tu ne peux pas t'appeler Oublié, le nom à Madagascar, c'est ce qui dit la filiation, l'origine, ça dit qui on est, ça dit notre identité. Et si tu acceptes de vivre sous ce patronyme, c'est que tu as renoncé à vivre qui tu es. Et réellement, ça m'a blessée. Et quelques mois après, je partais au Bénin, j'arrive à Ouida, donc sur la route des esclaves, je m'arrête sur la place du marché, là où se vendaient donc aux enchères les esclaves. Et il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de l'oubli. Et je m'approche, sur cet arbre, il y a une petite pancarte qui indique que les hommes, avant de monter dans le bateau négrier, devaient tourner 9 fois autour de l'arbre et les femmes 7 fois. Et que ce rituel visait à laisser derrière eux leur histoire, leurs souvenirs, leur identité. Et à ce moment-là, je me prends quand même de manière assez violente l'origine possible de mon nom. Et je me dis qu'en effet, refuser de creuser la question, c'est accepter tout simplement de vivre dans une temporalité qui est la mienne et qui est celle de l'oubli, mais l'oubli n'est pas ma condition. Et donc, écrire Pays en nous, ça a justement été libérateur pour ça, même si ce nom-là, c'est celui de mon père. Écrire l'histoire donc, de la société antillaise, de sa migration, ça m'a permis, moi, de me trouver un point de départ. Et ce point de départ, il se situe dans le témoignage de mes grands-parents. À travers ce point de départ, je le vois aussi comme une espèce d'arbre du souvenir, en fait. Grâce à eux, je me suis reconstruite de la mémoire qui avait disparu. Et je crois que j'accepte un peu plus facilement aujourd'hui ce nom qui apparaît encore aujourd'hui en arrivant à la radio. On me l'a fait remarquer comme une espèce de bizarrerie, comme une moquerie. Et c'est toujours ce que j'ai connu. Mais aujourd'hui, je crois que je le porte avec beaucoup plus de raison et moins d'émotion.
Bienvenue, Jessica Oubliée.
Merci.
Vous en faites un très beau récit. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le groupe guadeloupéen Soft chanter Cadan à Pays-là ?
Oh, Cadan à Pays-là. J'adore ce groupe. En fait, ça me serre sans doute l'estomac et le cœur. En dehors de mes congés bonifiés donc, aux Antilles, j'avais du mal, il y a encore quelques temps, à écouter de la musique antillaise ici. En créole, on appelle ça le limbé. C'est cette espèce de sentiment d'abandon, c'est comme aussi le manque amoureux, c'est comme la souffrance qu'on peut avoir après une séparation. Et à chaque fois que je reprenais l'avion pour laisser derrière moi la Guadeloupe, je laissais derrière elle, aussi, derrière moi aussi, la musique antillaise, les plats antillais, parce qu'il s'accompagnait pour moi d'un certain vague à l'âme.
En vérité, yo pas senti cadence sa pays là. Yo pas vu sainte loi, yo pas vu marcelouia. En vérité, yo pas aimé l'eau sa pays là. Les souffriers, yo pas qu'un homme. On vous comprend, y qu'un bruit. N'importe qui joue, faut s'appeler. Oh. Celui qui a chaillé, celui qui a brûlé, celui qui a mené nous plus haut, plus haut. Pardon, maman, pardon, papa, nous pas de pays là, si l'eau vide ancienne, faiblesse, ma gagne pour encore. Zambi, 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 que roule.
au coco de toute façon.
Voilà, et non, c'est vraiment.
Combien?
2,20€, madame.
J comme. Je me souviens.
Alors, qui jouait au domino du côté du gosier en Guadeloupe sur fond de sorbetière et de soirée goka?
Mes grands-parents. Mes grands-parents jouent tous les soirs au domino sur le porche de la véranda. C'est une pratique qu'ils ont depuis toujours et c'est une pratique du coup qui s'est invitée aussi chez moi quand j'étais petite. Et donc tous les dimanches, mon père et ma mère organisaient des parties de domino et de benolt. Et donc le son des cartes qu'on rabattait fortement sur la table ou des dominos qu'on claquait, c'est ce qui a vraiment marqué tous mes week-ends quand j'étais petite. Et en plus, j'avais la chance de pouvoir faire ça en mangeant de délicieux sorbets ou en buvant du chaud d'eau, ce qui me redonnait un petit goût de pays au moins une fois par semaine.
Tout ce qui se rattache à cette terre compte, à l'évidence pour vous, et vous donne en même temps du boulot, quoi. On va réinviter dans votre ensemble majeur la voix de vos grands-parents, que vous avez interviewé de longs après-midi. On le disait en première partie, pas facile d'interviewer son papy pas très causant, mais c'est pas facile non plus d'interviewer sa mamie toujours prise par les feux de l'amour.
Est-ce qu'il y a des choses que ta maman, elle t'a appris en particulier? Est-ce que, je sais pas, la couture, la cuisine?
Ah ben, la cuisine.
C'est vrai?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Comment elle t'apprenait?
Eh bien, elle m'a appris comment qu'on fait manger. Le courbouillon poisson.
Elle faisait du courbouillon et quoi?
Du courbouillon avec de lentilles mélangées, du poisson frit, du racine, patates. Elle faisait un courbouillon de morue avec du concombre.
Est-ce qu'en France, tu considères, quand tu étais ici, tu considérais que la France était ton pays ou que c'était un autre pays?
Tu sais, quand on n'en a pas encore voyager, on n'a jamais été à l'étranger, on pense pas un jour qu'on va se retrouver à l'étranger. Et si j'avais pas les gens qui étaient déjà là-bas pour me donner des conseils, peut-être j'aurais pas dû y aller.
Et quand tu étais là-bas, est-ce que tu as l'impression que les métropolitains, ils te voyaient comme un étranger?
En général, oui. Oui, entier, ce sont les étrangers.
Qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils disaient qui t'amène à penser ça?
Parce que tu étais noir.
Parce que tu étais noir?
Voilà.
Et oui, recueillir la parole de ses grands-parents, une parole si touchante, ce n'est pas rien. Vous, Jessica Oublié, est-ce que vous vous sentez être, pour reprendre le terme de Françoise Vergès, que vous avez été écoutée dans certaines de ses conférences, est-ce que vous vous sentez être une oubliée de l'histoire?
Un peu moins aujourd'hui qu'hier, parce que mes grands-parents ont compris ma démarche et qu'ils ont accepté de se livrer un peu, mais tout le travail de Payons-nous, c'était justement venir signifier une partie de l'histoire de France et de ses citoyens français qui n'est écrite nulle part ailleurs, pas dans les livres d'histoire. Je me sens oubliée en partie, mais j'ai l'impression aussi, comme le dit l'une des étudiantes qu'on voit donc dans les planches concernant Françoise, que c'est toute une partie de la classe ouvrière française, toute une partie des petites classes finalement dont on parle très peu de l'histoire.
Vous êtes né en 83, à Paris dans le 15e, vos parents étant arrivés en métropole, c'est comme ça qu'on dit, même si c'est un mot qui peut choquer encore. Ils sont arrivés à l'âge de 14 et 15 ans. Qu'est-ce que vous savez de leur histoire?
Ma mère est venue à 14 ans pour suivre mon grand-père. C'était la fille aînée d'une fratrie de 9 enfants. Et mon grand-père avait besoin de quelqu'un pour entretenir la maison. Et mon père, qui ne nous avait jamais tellement parlé de son histoire, quand il a vu le temps que je passais à écrire celle-ci, un jour, il nous a dit à table que si finalement il refusait que mes deux petites sœurs fassent des études de cuisine, parce qu'elles cuisinent divinement bien, c'est parce que lui, il était venu pour en faire. Et que à la fin de son stage, on lui avait dit « Saint-Yves, écoute, tu cuisines très très bien, mais je suis navrée de te le dire, tu ne pourras jamais sortir la tête de la cuisine ». Voilà, mes parents se sont un peu livrés, eux aussi, durant ce travail d'enquête.
Est-ce que vous diriez que le parcours migrant de vos parents vous imprègne toujours?
Aujourd'hui, je me sens complètement la fille d'un migrant. C'était pas le cas avant, mais
avant quoi ?
Avant Payons-nous, c'est-à-dire que là, je à travers l'histoire, je sais que mon grand-père est parti parce qu'il était coupeur de canne et que son entreprise de canne à sucre allait fermer et qu'il est arrivé ici en pensant pouvoir trouver un emploi et qu'à la mairie de Paris, on lui a dit oui, on a des postes d'éboueurs disponibles et donc il a fait ça pendant 20 ans. Et que ma mère donc l'a suivi pour pouvoir entretenir sa maison. Mon père a vécu la frustration de ne pas pouvoir faire le travail qui était celui pour lequel il pensait être formé et né. Et puis, dans leur rencontre, moi, je comprenais pas pourquoi tous les dimanches, il fallait qu'on supporte justement le bruit des dominos et écrire et comprendre la migration, telle qu'elle est par exemple racontée aussi chez Abdelmalek Sayad.
Ça m'a permis, sociologue français d'origine algérienne.
Et qui a beaucoup travaillé, qui a été le fin observateur de la migration algérienne. Moi, je comprends que je suis née de là, qu'il n'y a pas de différence entre ces migrants d'Algérie qui ont des espoirs de vie meilleure, mais qui en même temps doivent se faire tout petits pour être acceptés dans la société qui les accueille.
Toute petite, c'est peut-être ce que vous avez été obligée de vivre aussi lorsque vous arrivez, je crois, à l'âge de 9 ans au Raincy, en Seine-Saint-Denis, chez Éric Raoul, comme vous dites, ex-UMP. Comment ça se passe à ce moment-là pour vous, dans ce coin-là ?
C'est difficile. Disons que je vais au Raincy, j'habite à Clichy-sous-Bois. Je vais au Raincy depuis 2 ans pour aller faire du volet le soir. Et venu le temps de la 6e, je fais une demande de dérogation pour pouvoir aller au collège au Raincy. Et là, on m'explique que ma moyenne de 15 est bien insuffisante par rapport à ce qui est attendu au niveau du Raincy. Finalement, c'est une pétition des parents du club de volet qui me permettra d'avoir accès à cet établissement. Moi, je prends conscience bien plus tard de ce que ça signifie quand même, hein, que ce soit par la voie du sport que j'arrive donc, dans cet établissement. Et là, je découvre la différence sociale. À Clichy-sous-Bois, je dis souvent, le monde était mon immeuble. On était 25 en classe et il y avait sans doute 23 nationalités. Alors qu'au Raincy, j'arrive pendant quasiment 8 ans, donc du collège au lycée. Je suis quasiment la seule noire en classe.
Est-ce que vous pourriez devenir ce qu'on appelle, je crois, en Guadeloupe, une ripate ?
Oui, Qu'est-ce que c'est ? Une ripate, bah, c'est des gens qui sont nés sur le territoire métropolitain, deux parents originaires d'un département d'outre-mer, et qui décident à un moment de leur vie de s'installer dans le département qui a vu naître leurs parents.
Est-ce que ça pourrait être votre désir à vous, ça ?
C'est complètement mon désir depuis peu. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'être dans une relation qui ne soit plus une relation en pointillé avec ce département. J'ai besoin vraiment d'être dans une forme de linéarité pour continuer de construire ce que j'ai commencé à faire avec Payons-nous.
D'en finir aussi avec, pardon, mais peut-être une dimension exotique de cette Guadeloupe pour vous.
Ah oui, alors j'ai pas, moi, je suis revenue de l'image carte postale. Je sais très bien, à travers le microcosme de ma famille, ce que peut être la réalité guadeloupéenne. Mais j'ai besoin de la sentir un peu plus longtemps, de la laisser s'infuser en moi et de m'imprégner d'elle, de ses contradictions, de ses difficultés. On dit souvent que la société antillaise est schizophrénique. Et j'ai besoin peut-être, moi aussi, de goûter à ma part de folie pour ensuite la laisser s'en aller.
Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France.
Jay.
Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Alors il n'est jamais aisé, compte tenu de notre histoire partagée, pour un président français de venir parler comme cela de l'Afrique. Et je n'aurai pas la prétention ici d'exprimer la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
J'imagine peut-être que vous avez jeté une oreille sur le discours du président français Emmanuel Macron lors de sa visite au Burkina Faso, avec notamment cette phrase qui a produit beaucoup de commentaires « Il n'y a plus de politique africaine de la France ». Est-ce que vous, Jessica Oublié, vous faites confiance à la génération Macron ?
Je ne sais pas si je lui fais confiance. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut espérer des choses d'elle. Et je crois que moi, j'en suis aussi arrivée au point où je n'ai plus d'attente. je me sens pas forcément en confiance, mais j'ai pas d'attente particulière vis-à-vis du gouvernement et encore moins en matière de politique internationale africaine.
Vous ne faites pas de crédit à cette nouvelle génération qui a un positionnement et en tout cas une parole déjà différente.
Alors, la parole est différente. C'est vrai que le président a très tôt reconnu la guerre d'Algérie comme un crime aussi contre l'humanité. La colonisation de manière générale. Mais donc, je lui reconnais quand même une part de franchise historique qui n'a pas été forcément celle de ses prédécesseurs. Maintenant, je me garde aussi des effets de séduction et donc j'espère que les choses iront dans le sens de ses propos.
Peut-être que vous avez remarqué qu'on a fait un tapis vocal en sol majeur au président français avec ces fameux pygmées Aka de Centrafrique que vous aimez. Quel est votre lien alors, vous, la métropolitaine? Je reprends les mots de papy, hein, je me cache derrière lui. La métropolitaine d'origine guadeloupéenne et martiniquaise avec le continent.
Il est arrivé très tôt dans ma vie ce continent africain. Je l'ai découvert à travers... au début la peinture de Picasso et je me suis interrogée sur la manière dont l'art nègre, dont il refusait les termes, avait investi sa peinture et donc j'ai décidé d'en faire un mémoire de recherche au lycée. Et puis ensuite, j'ai défendu la question de l'identité artistique sur le continent africain dans des études d'histoire de l'art. Et en 2008, je suis partie travailler à l'Alliance française de Bangui en Centrafrique. Et ça m'a bouleversée parce que il y avait quelque chose de fondamentalement différent, de nouveau, et en même temps, le sentiment que quelque part, sous mes pieds, travaillaient là, étaient là des espèces de racines, des choses qui venaient me parler, dont j'avais peut-être aperçu déjà les traits ailleurs, et notamment dans la culture antillaise. J'étais pas chez moi, mais j'étais pas complètement à l'étranger non plus.
On n'a pas le temps de lire cet extrait de correspondance que vous avez eu avec vos parents lorsque vous étiez en poste à Bangui. Mais j'ai cru comprendre en vous lisant, c'est très imagé ce que vous écrivez, Jessica Oublié, que peut-être la Centrafrique a en tout cas été une école pour vous, une école de vie.
Oui, complètement. Déjà parce que c'était dans un pays où l'aide humanitaire dans sa totalité était présente et donc le rapport aux gens était très particulier, très, très coloré. Il n'y avait pas de classe moyenne et je crois qu'il n'y en a toujours pas en Centrafrique aujourd'hui. Donc mes interlocuteurs soit étaient des artistes qui n'avaient pas beaucoup de moyens ou tout de suite des hommes politiques qui en avaient beaucoup trop. Et j'avais donc du mal à avoir prise. Et en ça, ça demande de développer des stratégies pas seulement cognitives, mais d'observation relationnelle pour essayer de se situer. Et puis surtout de continuer de tenir debout.
Est-ce que ces voyages vous ont transformé?
Oui, ils m'ont transformé. Ils m'ont permis, je pense, d'avoir une forme d'humilité que je n'avais pas auparavant. Une forme de générosité aussi beaucoup que je n'avais pas auparavant. Et que j'ai trouvé merveilleuse, notamment au Bénin. Déjà au Bénin, je passais pour une fille du pays parce que très souvent on me disait « Ah toi l'Antillaise !» Tu es notre sœur, non? Le roi Béhanzin, il était en Martinique au Lamantin. Tu connais, non? Donc, je me sentais encore une fois, voilà, peut-être, oui, une petite fille rentrée au pays. En tout cas, c'est comme ça que les Béninois me décrivaient. Et du coup, j'ai pu, sans doute un peu grâce à ça, bénéficier d'une forme de générosité dans la pensée, dans l'accompagnement aussi.
Alors, je sais que si on rentre chez vous, Jessica Oublié, dans votre home, il y a de l'art contemporain. Il y a notamment des sculptures du sculpteur béninois Rémi Samuse. On n'a pas le temps de l'évoquer. Il y a plein de livres du Abdelmalak Sayad qu'on évoquait un peu. Des BD, Aya de Yopougon ou du Zaina Abirached. Je sais que vous avez rattrapé votre retard en BD, justement, pour payer en nous. Mais il y a aussi des films. Il y a de quoi regarder. Une minute de Rue Cazenègre, très beau film de Zane Palsy qui se déroule dans la Martinique des années 30. C'est maintenant.
Entrez, monsieur Assam. Ne croyez pas que vous allez échapper à la révision du vocabulaire. Monsieur Assam, dites-nous donc quelle différence de sens il y a entre caqueter et chanter.
En général, on emploie le mot chanter pour les personnes lorsque la voix exprime une musique. Par exemple, ma grand-mère avec une bonne pipe, elle aime bien chanter.
Silence!
On dit aussi que les animaux chantent. Les tourterelles, les pipiris, les siffleurs des montagnes. Les choses aussi peuvent chanter. Le vent dans les champs de canne, la pluie qui tombe, les rivières, même les roues de caboué. Mais il existe aussi des verbes qui précisent l'action de chanter. Si c'est un crapaud, on dit qu'il coasse. Les roues de caboué...
crissent.
Elles crissent. De la même manière que d'une poule a pondu, elle chante pour annoncer ça. On dit qu'elle caquette.
C'est très bien, ça. Vous avez défini excellemment les deux termes, mais lorsqu'on est un élève aussi brillant, on ne se permet pas d'arriver en retard.
Un extrait en sol majeur de Rue Casnègre, d'après un roman éponyme de Joseph Zobel. Ce Rue Casnègre, est-ce que vous diriez qu'il a participé à votre éducation littéraire et antillaise, Jessica Oublié?
Énormément. Il m'a beaucoup appris sur notamment le contexte dans lequel sont nés mes grands-parents, parce que c'est les Antilles des années 30, c'est le travail en bitation, comme on dit en créole, donc c'est le travail de la canne à sucre dans les champs des propriétaires terriens, donc des colons. Mes grands-parents sont nés dans les années 30, et c'est ça leur quotidien, c'est ça leur vie. Et ce que j'aime beaucoup dans la figure de José, donc du personnage qu'on vient d'entendre à l'école, c'est qu'on voit la place centrale de l'école, la langue, la grammaire, la conjugaison, pour aller plus loin et en fait pour témoigner de sa reconnaissance à ceux qui courbent encore l'échine. Donc il est terriblement conscient de la nécessité de faire allégeance à l'école.
Na'u hua yohe henua.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
Avec la bénédiction des crapauds buffles pendant la saison des amours.
C'est dur comme question. J'ai cru que rentrer chez moi... En 2010, c'était rentrer à Paris auprès de mes parents après mes 5 années d'errance en Afrique. J'ai cru que rentrer chez moi, c'était acheter l'appartement qui est le mien aujourd'hui. Et là, je m'apprête à le quitter pour aller m'installer quelque temps en Guadeloupe.
Aux Antilles, il y a une coutume qui dit que pour ne pas oublier sa terre, il faut mettre un peu de terre dans sa valise. Ça vous inspire quoi, cette coutume ?
C'était quelque chose que je connaissais pas avant d'écrire Pays en nous. C'est Édouard, un Martiniquais, qui me parle de ça. Et c'est, en gros, quand sa mère lui met ce petit sac de terre dans sa valise, c'est pour dire, on sait pas quand est-ce que tu reviendras et on sait pas où tu iras et ce que tu trouveras là-bas. Mais sois sûr que cette terre-là, celle sur laquelle tu es né, elle est réelle, elle.
Mais dans votre sac à vous, il y aurait quoi comme terre?
Sans doute mes tableaux, mes peintures, mes sculptures. parce que dans l'éducation de mes parents, il y a toujours eu ça, une sensibilisation à l'art. Ma mère, elle nous organisait des ateliers de dessin à la maison. Elle aimait bien faire ça avec nous. Et mon père, lui, adorait nous amener en visite dans des châteaux. Il adorait les oubliettes, lui qui s'appelle Oublié. Et donc, on avait toujours droit à des visites de châteaux à chaque fois qu'on partait en vacances. Voilà, si je peux amener quelque chose, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, je ne me sentais pas chez moi vraiment avant d'acheter mon appartement et de tout y mettre, de tous ces meubles que j'avais eus à Madagascar, au Bénin et en Centrafrique. Donc, s'ils peuvent me suivre en Guadeloupe, ce serait formidable. Oui.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Stankis, Pays en nous, donc cette bande dessinée signée Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau. Et si on se disait au revoir avec, j'ai trouvé ça dans votre sac, la trompette d'Ibrahim Malouf, une belle trompette qui pleure Beyrouth. On y va ?
Oui, on y va.
Thank you.
en sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Mohamed El-Khatib. À la semaine prochaine.